Il n'y a pas d'école pour être parent. C'est le métier le plus difficile et il n'y a aucune formation. Et il y a des gens doués et des gens pas du tout doués, mais il faut faire avec. Et je pense que nous avons la chance dans l'Église d'avoir quand même ce lieu de... quand même de formation, parce que l'Évangile va nous aider énormément. Alors, encore une autre précision aussi qui est importante, c'est que, voilà, je suis moniale, enfin j'essaye, c'est pas évident tous les jours, mais j'ai aussi été maman. Donc, je suis aussi maman d'une moniale, donc ça fait un peu une expérience un peu particulière. Et on peut toujours parler des enfants ou du mariage ou de la vie de couple, mais si on n'a pas l'expérience, c'est un petit peu moins crédible. Il faut savoir ce que c'est qu'un enfant, il faut savoir ce que c'est qu'une famille pour en parler. Voilà, alors, pour commencer à propos du pardon, parce que je crois que ça c'est essentiel. Quand on se marie, il faut savoir se demander pardon. Toujours. Pour quel que soit le prétexte, il faut toujours apprendre à se demander pardon. On ne peut pas faire une vie ensemble si on n'est pas capable de se prosterner jusqu'à terre devant l'autre, même si on ne sait pas vraiment quelle est notre faute, mais on voit bien que l'autre, il n'est pas content du tout. Donc, il y a quelque chose. Mais le principe, quand même, dans l'Église qu'on apprend toujours, c'est que quand quelqu'un me demande pardon, je dois toujours lui demander pardon aussi, parce que peut-être qu'elle m'a fait du mal, donc elle vient me demander pardon. Mais si elle m'a fait du mal, je ne suis peut-être pas complètement pour rien. Il n'y a jamais une innocence totale de la part de quiconque. Et donc on commence la vie de couple avec ça, à chaque problème on se prosterne et on se demande pardon, et finalement, ben, l'enfant qui arrive, qu'est-ce qu'il va voir? Ça c'est la catéchèse vivante. Il va voir que les parents se demandent pardon. Et devant l'enfant, hein, il n'y a pas de fausse pudeur, c'est très beau. Et du coup, l'enfant va apprendre à demander pardon. Pour tout ce qu'il peut faire de travers. Mais quand l'enfant demande pardon, il faut aussi que la mère à qui il demande pardon, ou le père, se prosterne et demande pardon aussi. Ça c'est la vie de famille, ça doit être un balai où on n'arrête pas de se demander pardon les uns aux autres, parce que dans une maison à plusieurs, eh bien on se frotte. Il y a très souvent des petites choses comme ça. Donc il y a toujours des occasions pour se prosterner, pour demander pardon. Et l'enfant apprend ça très très bien. Et dans le pardon, il y a aussi la solidarité. On punit. Hein, parce que bon, maintenant, ça va peut-être être un jour interdire de punir, mais dans l'Église, on peut punir. C'est qui aime bien châtie bien. Et quand on, par exemple, on supprime le dessert d'un enfant qui a vraiment fait une grande bêtise, eh bien, je pense que la moindre des choses, c'est de se priver avec lui. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une épitimie si je ne suis pas capable de la prendre sur mon dos? En partant toujours du principe que un enfant qui ne s'est pas bien comporté, je ne peux pas dire que je sois à 100% innocente de ce qu'il a pu faire comme erreur. Et je pense que la confiance que l'enfant va développer vis-à-vis de ses parents va venir de cette solidarité. Tu as fait une bêtise, je te punis, mais je fais la punition avec toi parce que j'y suis forcément pour quelque chose aussi. Donc c'est pas une mise à l'index, t'es mauvais, t'as fait des bêtises, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que je n'ai pas bien fait, bien dit. Peut-être que je t'ai blessé. Et c'est très important aussi, cette solidarité entre les frères et sœurs. J'aimerais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup touchée dans ma vie et qui symbolise vraiment cette histoire de solidarité. Une famille avec plusieurs enfants dont l'avant-dernier est devenu diabétique. Il a 7 ans et c'est dramatique. Et il est devenu voleur. Il vole tout ce qu'il peut d'alimentation. D'un enfant absolument angélique, il devient vraiment un enfant difficile. Et ben voilà, la mère un jour fait une tarte aux fruits pour le soir. Et quand elle va pour poser la tarte sur la table, elle se rend compte qu'il n'y a même plus un fruit sur deux. elle comprend tout de suite ce qui se passe, mais elle va voir quand même les plus grands en disant « Tu n'as pas touché aux fruits sur la tarte ?»« Non, maman, bien sûr. » Et comme on a confiance les uns dans les autres, on se croit. La dernière était trop petite pour avoir fait ça, donc c'est forcément celui-là. Donc le repas se passe, et quand la tarte arrive sur la table, il y a comme un ange qui passe, un silence, et la mère dit « Tiens, c'est bizarre, sont passés où les fruits ?» Et le petit garçon, qui a quand même appris à reconnaître, et tout ça c'est très important, lève timidement un doigt en disant « C'est moi qui les ai mangés. » Alors la mère dit « Bon, ben, puisque tu les as mangés, t'as pas besoin de tarte ce soir. » Silence. Le père dit « Je n'en prendrai pas non plus. » Et les enfants, les uns après les autres, disent « Moi non plus, maman. » Et hop, la tarte est repartie à la cuisine pour le lendemain. Et je pense que pour l'enfant qui a fait cette erreur, c'est 100 fois plus instructif et pédagogique que les cris, la punition qui va tomber. Là, elle a été, il y a eu une punition parce qu'on n'a pas mangé la tarte. Mais chacun prend sa part de la faute de l'autre. C'est vraiment l'histoire du fardeau qu'on porte les uns les autres. Quand on pêche, c'est une faute. Mais on devrait, surtout dans une famille, avoir beaucoup plus de solidarité pour porter ça. C'est le péché, c'est, ça nous concerne tous. Il n'y a pas une seule personne qui pourrait dire qu'elle n'est pas concernée. Et quand on élève les enfants, je pense que c'est aussi très important que l'enfant comprenne que son père aussi est un pécheur, que sa mère aussi est un pécheur, et qu'on essaye ensemble d'avancer vers le Christ avec le pardon, parce qu'on fait des erreurs tout le temps. Et donc pour moi, je pense qu'on ne peut pas faire une vie de couple et on ne peut pas élever des enfants si on n'a pas vraiment développé de façon très importante cet esprit du pardon. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a l'obéissance qui vient avec. Alors, l'obéissance, je pense qu'aujourd'hui, c'est très... Je ne sais pas comment vous voyez les enfants autour de vous, mais moi, je suis sidérée parce que j'ai l'impression que ça n'existe pas. L'obéissance, ça n'existe pas. C'est quelque chose... Alors, j'espère... Ben moi, j'ai une toute petite expérience des gens qui fréquentent l'ermitage avec des enfants, et je dois dire que ce sont des enfants obéissants. Mais malheureusement, je ne veux pas faire de ségrégation, mais ce ne sont pas des enfants français. Donc il y a une autre culture et une autre exigence de la part des parents. Et ben voilà, alors je ne sais pas si ça joue. Bon, chez nous, ben, nos enfants ils sont toujours français, mais on a été très exigeants avec l'obéissance. Pourquoi être exigeant avec l'obéissance ? Parce qu'on ne peut pas avoir, on peut pas développer la confiance qui est tellement indispensable entre l'enfant et les parents s'il n'y a pas d'obéissance. Tout est lié. Si l'enfant fait ce qu'il veut, il n'y aura aucune raison de lui faire confiance. Et d'ailleurs, il n'aura aucune raison d'avoir confiance dans ses parents qui n'auront pas su lui montrer le chemin. Alors, je veux vous dire aussi, quand j'étais jeune maman, j'étais aussi jeune chrétienne et jeune crétine. Parce que j'ai pensé que, comme je, vous savez, au début d'une conversion, c'est extraordinaire, quoi. Dieu est partout, je t'aime, moi non plus. Enfin, c'est extraordinaire. Et du coup, on élève les enfants. Non, tu n'auras pas ça. Oh, si, mon chéri, viens, viens. Jusqu'au jour où j'ai parlé de ça avec un prêtre qui m'a beaucoup aidée, il m'a dit, mais c'est presque diabolique ce que vous faites. Quand vous dites non, c'est non. Quand vous posez un acte, vous allez jusqu'au bout. Quand vous donnez une sanction, vous la maintenez. Même si entre-temps, vous avez vu que finalement, c'est peut-être un peu dur ce que j'ai fait. Allez demander pardon à l'enfant, mais vous lui dites, c'est dit, c'est dit. Et pour moi, au départ, ça a été comme une révélation. En même temps, je sentais que c'était juste. Il y a une espèce d'intuition qui fait que c'est juste. Mais au bout de quelques mois, où les règles ont changé dans ce sens-là, les grands étaient capables de me dire « Non, non, maman, tu as dit non. Oui, c'est vrai, je dis non. Et je pense qu'on a tous besoin d'une règle de conduite pour grandir. Tous, y compris les adultes qui ont besoin de règles de conduite pour grandir en Christ. Mais les enfants, ils vont grandir et dans leur vie d'homme ou de femme, mais en même temps dans la vie de Christ. Parce que quand un enfant a la grâce d'être élevé dans une famille chrétienne, c'est le tout qui démarre en même temps. Et c'est extraordinaire, c'est une grande avance sur ceux qui n'ont pas été élevés dans des familles chrétiennes. C'est une grande avance que de naître dans la bénédiction. C'est une grande avance que de naître dans un couple qui se bénit avant de s'aimer, qui se bénit pour tout. Et un bébé qui pousse là-dedans, c'est extraordinaire, mais il ne faut pas gâcher ça. Donc après, il faut vraiment tenir, ne jamais considérer d'une part que l'enfant vous appartient, et d'autre part, jamais le considérer comme un objet. Et ça vous paraît peut-être évident à dire, mais je peux vous dire que c'est monnaie courante. Toutes ces vidéos qu'on peut voir des bébés qui font rire tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est épouvantable. L'enfant est une personne. L'enfant qui arrive est une personne. Je vous engage à parler à votre bébé même avant qu'il arrive. Tout passe. Tout passe. Priez à haute voix pour que l'enfant l'entende, la prière. Et le père et la mère. Ça, c'est essentiel de considérer que l'enfant est une personne que Dieu vous confie. Et dont je pense que nous aurons à rendre compte dans l'autre monde. J'ai eu parmi mes enfants un enfant extrêmement difficile. Mais extrêmement difficile. Un amour, mais extrêmement difficile. Et je me suis vue à plusieurs reprises, même déjà grand enfant, lui donner des fessées en pleurant et en lui disant que tu le veuilles ou pas, tu deviendras un homme. Et grâce à Dieu, il est devenu un homme. Mais il y a des enfants qui ont des tempéraments et des caractères très prononcés. Et il faut absolument guider, montrer le chemin, que le père soit le père, que la mère soit la mère, et pas laisser les choses... Et en même temps, et on arrive au troisième point, mais tout est lié. Il faut laisser la liberté. Alors ça c'est dur. Moi, la première fois où Père Sophronie m'a dit « Il faut élever vos enfants dans la liberté », je suis rentrée en France et je me suis dit « Mais c'est quoi la liberté ?» Et c'est quoi la liberté ? C'est quoi la liberté dans l'éducation d'un enfant ? J'ai pas la réponse toujours, et j'ai fini de les élever. Je peux peut-être juste vous parler d'une conversation que j'ai eue avec ma dernière fille il y a pas un mois. Et nous parlions et je lui disais, tu vois, quelquefois je me dis, c'est possible que je t'ai laissé trop la bride sur le cou, peut-être trop de liberté. Et quelquefois je me dis, tu t'es cassé vraiment le nez bien des fois dans ton adolescence et dans ton âge de jeune femme. Et des fois je me dis, peut-être j'aurais dû tenir, interdire. Et elle me dit, mais maman, mais pas du tout, si tu l'avais fait, mais je t'aurais haï. Et notre relation serait épouvantable. Elle me dit, regarde aujourd'hui, j'ai tellement compris de choses, j'ai beaucoup souffert, j'ai vraiment beaucoup souffert. Alors, ça, je lui dis, tu sais, c'est que Dieu qui me dira si j'ai vraiment fait ce qu'il fallait ou pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Mais son père me disait, quand elle était adolescente, je ne veux rien savoir. On fait quoi ? C'est quoi la liberté ? Vous avez une idée, vous, de ce que c'est que la liberté pour élever des enfants ? Qui est-ce qui a une idée ? Parce que c'est pas la licence, la liberté. C'est pas « fais ce que tu veux ». Parce que ça, c'est une catastrophe. Mais la liberté, c'est un peu comme quand vous apprenez à un enfant à faire du vélo à deux roues, et puis qu'à un moment donné, vous le lâchez. Mais on tremble quand on le lâche, mais il se débrouille, il va y arriver. Je pense que dans ce métier de parent qui est le plus difficile, il est aussi aussi varié que les personnes peuvent être variées les unes des autres. Parce que chacun amène ce qu'il est aussi. Il amène ce qu'il est. Père Jean, vous avez des enfants ?
Un mois et demi.
Hein ? Mais ça existe, hein ?
Oui, mais ça commence.
C'est une grande.
C'est quand vous avez demandé qu'est-ce que c'est la liberté,
oui.
Moi, je pensais au fait que quand nous étions trois garçons.
Oui.
Donc on a été, tous les garçons, on a été des vrais garçons, disons. La pauvre mère, donc c'était difficile, mais je me souviens toujours donc les mots de mon père ou son délit, disons, qui me disait toujours donc. Je te permets d'y aller ou de faire ça, mais c'est toi qui réponds de ton état quand tu reviens et comment tu reviens. Donc deux questions, quand et comment. Et puis donc si la prochaine, donc si quelque chose n'était pas très bon, donc la prochaine fois tu allais déjà la réponse pour croire non.
Oui.
Donc c'est ça qui m'est rester donc dans mon esprit, donc c'était responsabilité, mais c'est vrai que c'est déjà bon, c'est un âge de la force 15 ans,
oui,
mais un peu avant.
Mais c'est bien parce que en fait ça laisse la responsabilité et ça forge la confiance, parce que comme il vous fait confiance,
oui, c'est ça.
Normalement s'il y a quand même de l'amour, on veut pas tromper la confiance de celui qu'on aime. Et je pense que ça, c'est très, très important. Je vois des mères, par exemple, qui refusent systématiquement les sorties des filles, par exemple. Bon, moi, je pense que le systématique, c'est pas bon. Je pense qu'il faut être prudent. Il faut savoir où, comment et avec qui. Mais on peut pas tenir en laisse quiconque. Parce que là, du coup, on ne travaille pas du tout la confiance. Et aussi la confiance en Dieu, parce que, quand même, bien sûr qu'on est responsable, mais c'est vraiment très difficile de limiter les choses. C'est tout qui s'imbrique. On ne peut pas recevoir vraiment l'amour d'un enfant à qui on n'a pas donné confiance. Parce qu'il se sent dévalorisé si on ne lui fait pas confiance. Un enfant à qui on fait confiance, il se sent valorisé. Alors ça commence tout petit, où on lui demande de mettre la table, des choses comme ça. Bon, il va peut-être casser quelque chose, mais ce n'est pas grave. Il faut lui faire confiance, puisqu'en plus il le demande. Voyez ? Donc, on prend des risques. Mais est-ce que dans l'amour, on ne prend pas de risques ? C'est pas possible de ne pas prendre de risques. Je pense que c'est tellement important de développer ce sentiment de confiance entre les parents et les enfants. C'est vraiment un tout. Et c'est pareil, si vous exigez des choses de l'enfant et que, en fait, vous faites les mêmes erreurs, même pas le dos tourné. Oui, mais moi je suis ton père, par exemple. Mais pourquoi toi tu fais ça ? Moi je suis ton père. Quelle confiance ! Le père ou la mère, ce sont des exemples à suivre. Donc, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, ce n'est pas parce qu'on est le père ou la mère qu'on a le droit, d'abord on n'a pas de droit sur l'enfant. On a des devoirs, beaucoup de devoirs. Mais c'est très, très compliqué parce que cette liberté, donc Père Jean donne cet exemple qu'il a lui-même vécu, je pense que pour chacun, en fonction de ce qu'il est, en fonction aussi de la propre confiance qu'il a en lui, en Dieu, il va ouvrir plus ou moins ce champ-là. Mais ça doit se travailler. Il ne faut pas en rester là où vous êtes aujourd'hui. De toute façon, on est tous en devenir d'être des chrétiens, vraiment, dans l'appellation pleine, c'est-à-dire vraiment des gens qui suivent le Christ. Si on était des saints, on serait parfait dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'en fait, le but de l'éducation d'un enfant, c'est d'en faire un adulte. Mais le véritable adulte, c'est un saint. Le monde autour de nous, regardez, il n'y a pas d'adultes. Il y a des petits adultes un peu, mais c'est que des grands enfants. C'est le grand problème de notre société. Ce ne sont que des grands enfants. Et c'est ce qu'on essaie de travailler justement dans l'Église et à la découverte de tout ce qu'on peut avoir comme bénéfice de l'étude de l'Évangile tous les jours. C'est pour grandir et aller vers cette sainteté. Et quand on va avoir des enfants, on les emmène dans cette sainteté. C'est une aventure extraordinaire d'avoir un enfant. Extraordinaire. On est co-créateur avec Dieu quand même, c'est pas rien. Et quand on voit ce qu'on fait des enfants, la plupart du temps, c'est effrayant. L'enfant n'est pas respecté, très souvent n'est pas respecté. Essayez de rencontrer, pour ceux qui vont avoir un enfant, là, essayez très très vite de rencontrer son regard. Ça vous convaincra que c'est une personne. Et pas un petit machin qui braille. C'est tellement important. Mon petit papier, j'avais préparé quelque chose et puis finalement j'ai oublié. Oui, on parle. Je pensais au catéchisme parce que souvent on doit envoyer les enfants en catéchisme. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. On a toujours vécu un peu en marge, un peu loin des paroisses, parce qu'on a toujours habité très loin. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Par exemple, à Pétel, vous avez un catéchisme pour les enfants.
Oui.
Oui, avec différentes tranches d'âge.
Oui.
C'est ça, oui.
Trois
tranches, d'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le catéchisme, il commence à la maison. Hein.
Oui.
Ça peut pas être un cours qu'on a le mercredi ou... Ça devrait être le contraire. On va au cours et là, on se rend compte que oui, tout ce qu'on fait à la maison, c'est tout à fait ça. Une espèce de vérification. C'est pas dans ce sens-là, mais quand même, le catéchisme, c'est ce qu'on vit tous les jours à la maison. Alors, je sais pas comment vous avez idée d'élever un enfant à la maison. Comment est-ce qu'on peut instaurer un temps de prière, y compris pour les tout-petits? Alors, chaque âge, évidemment, ça va demander quelque chose de différent, mais je pense qu'il faut intégrer matin et soir quelque chose de très court, de très, très informe, mais il faut que le temps soit rythmé par la prière. Je pense que ça, c'est le fait même du chrétien, c'est de sanctifier le temps. On ne peut pas vivre... comme on vit dans le monde. Et l'enfant, c'est comme nous. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Donc ça doit savoir, ça doit sentir, on doit le voir dans la façon dont il évolue. Un enfant chrétien ne doit pas passer inaperçu aux yeux d'un autre chrétien. On doit se rendre compte qu'un enfant, il est nourri autrement, qu'il n'a pas juste la nourriture matérielle, mais qu'il a aussi une autre nourriture. Et j'invite souvent les mamans qui allaitent d'allaiter en disant la prière de Jésus, parce qu'il faut nourrir l'enfant dans les deux sens. Et même quand on nourrit à la cuillère, on doit nourrir dans les deux sens. Il n'y a jamais assez de prières. Et en même temps, et ça c'est tout l'art, laisser la liberté à l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit, d'avoir son propre rythme de prière. On ne peut pas imposer. Tant qu'ils sont tout petits, ils sont invités à la prière familiale. Mais quand ça commence à attraper 14, 15, 16 ans, c'est pas toujours évident. Et je pense que là, il faut vraiment partir du principe que notre histoire avec Dieu, c'est une histoire d'amour, et que la tienne n'est pas la mienne que la mienne, même si ça nous amène au même endroit, mais nos enfants ont un appétit qui n'est pas le même que le nôtre. Et là aussi, c'est pas facile d'imposer aux enfants, tu viens dimanche à la liturgie, non, j'ai pas envie dimanche.
C'est intéressant ce point, parce que le fait que quand on fait l'allaitement ou du dire la prière, c'est intéressant parce qu'au tout début, donc ma fille, donc il n'a pas encore 2 mois, donc on la suit beaucoup des choses très intéressantes, on a découvert beaucoup de choses, et c'est vrai que le lien entre la maman, le lien émotif entre la maman et le
bébé,
il reste, et moi je l'ai vu par, au début je ne croyais pas, Anna me disait voilà, il subit en même temps que moi, tu dis n'importe quoi, et puis je vois, et là la petite elle dort, et Anna, on a voit avec les bons en elle, et il s'est énervé, et presque a commencé à pleurer, Anna, donc il était négaté, et la petite a commencé à pleurer. Donc, il dormait, tout de suite elle a commencé à pleurer. Donc, et puis, moi, j'ai dit, mais est-ce que tu commences dans ce moment? Et puis, j'ai commencé à suivre, c'est vrai, le lien émotif, il reste même après un mois, deux mois, je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais il reste très, très... Donc si le lien émotif reste, donc je crois que c'est la même chose contre la prière, tout ça, ça passe. Donc c'est tout un organisme qui peu à peu peut-être se divise, mais au début, donc c'est un organisme tout un
petit. Quand vous parlez d'organisme, c'est un mot très très juste, parce qu'en fait tout ça est très organique. Entre la mère et le bébé, c'est très organique. Et une mère qui est dans la prière, même par exemple pendant la liturgie, souvent on me dit, mais les enfants, il faut qu'ils aillent à côté pour dessiner, etc. Chacun pense comme il veut. Moi, je pense que si la mère, elle prie, et qu'elle... Je ne dis pas qu'elle prie comme ça, et puis le gamin, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas ça, hein. Elle a la prière en elle, mais elle s'occupe de l'enfant, et elle l'a avec. Il y a une espèce de communion qui fait que l'enfant va se tenir tout à fait correctement et sans que la mère soit obligée de crier ou de taper. Il y a quelque chose qui se fait naturellement, mais ça vient depuis la naissance. Ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. J'ai une histoire qui est très rigolote. C'est un de mes fils qui était très 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 sage à l'église, mais vraiment très très sage. Et il avait toujours son petit chiffon qui suçait pendant la liturgie. Et généralement, au bout d'un quart d'heure de liturgie, il se couchait sous un banc, il dormait. Et quand le prêtre arrivait en disant « Avec crainte de Dieu, foi et amour », il surgissait et il allait communier. Mais je parle de 2 ans, 3 ans, pas plus. Mais un jour, on est allé chez les Roumains. Pareil, au bout d'un quart d'heure, il se couche sous le banc. Mais je me suis dit, mais le prêtre va le dire en roumain, donc ça ne va pas faire tilt. Mais ça a fait exactement la même chose. Il y a quelque chose qui est vraiment organique. Et la prière, quand elle est comme ça, dispensée, distillée, je dirais, distillée par la mère, il y a quelque chose de très profond chez les enfants. C'est pour ça que je dis, c'est passionnant. C'est passionnant, mais si on n'a pas ce projet de faire de nos enfants des saints, ça va faire quoi? Parce que vous savez, le saint, c'est pas forcément quelqu'un de parfait. Le saint, c'est celui qui aime Dieu et qui n'aime que Dieu et qui va que vers Dieu. C'est ça notre but à nous. Mais qu'est-ce qu'on voit qui voit ça même dans l'église? C'est pas évident du tout, du tout. C'est pas évident du tout. Et encore, je pense que vous avez une certaine chance, mais c'est pas partout pareil. Il faut être vraiment vigilant. Est-ce qu'il y a des questions?
Question, peut-être je vais juste ajouter un peu à ce qu'on a parlé, du lien entre le maman, entre la maman et le bébé.
Le bébé.
Je crois que, au moins, j'ai vécu un peu, il y a aussi un lien entre papa aussi, même si on ne le porte pas, même quand il est, quand il est à l'intérieur, moi, le dernier mois, donc notre fille, donc il bougeait beaucoup, beaucoup, et parfois, là, il se sentait vraiment très. Et il me disait, viens, et j'ai commencé juste, voilà, je mettais la main, 2-3 secondes. Voilà, c'était. Mais puis, parfois, on commençait à lire des. Bon, j'aime bien les poésies.
Oui.
Les
Pasternak, oui.
C'est quand même tout
de suite. Oui, oui, mais c'est sûr.
Même si c'est maman, sûr. Quand il restait dans son état, dans la même état que vous avez donné au plus là, mais moi, je vais mettre quelques secondes. Voilà,
je pense que la voix du père, c'est quelque chose de très important pendant la grossesse. L'enfant reconnaît la voix du père et on le sait parce que après la naissance, on voit bien la réaction du bébé quand il entend la voix de son père. Et par exemple, lire des poésies pendant la grossesse, c'est parfait parce que quand le bébé ensuite est un peu nerveux, a des difficultés, pleure, etc., le père peut être très patient et être à côté et reprendre ces lectures-là. Parce que l'enfant fait le lien tout de suite. Bien sûr que le père, il a une place. Ça dépend du père. Mais si le père veut prendre sa place, il a une sacrée place. C'est quoi la place du père, au fond? Est-ce que vous connaissez la place du père? Ça, c'est de la psychologie, mais elle est inhérente à... Nous sommes aussi des êtres de psychisme. La place du père, c'est de couper le cordon. Si le père n'avait pas vraiment sa place... Maman et bébé, ce sera comme ça jusqu'à 20 ans. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Donc le père, il est vraiment là pour remettre les choses à leur place en temps voulu. En temps voulu. Les premières années, c'est la symbiose avec la mère. C'est normal. Et puis petit à petit, c'est le père qui prend plus de place qu'avant. Pas plus de place que la mère, parce que ça, je pense que ça n'existe pas vraiment. Peut-être pour certains garçons, mais... C'est pas sûr. Et puis, on n'est pas là pour savoir qui prend plus de place, mais il prend plus sa place au bout de quelques années parce qu'il a un autre rôle. Et c'est pareil, on est dans un monde où les pères n'ont plus leur place. C'est très compliqué, hein. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On est quand même dans ce monde, même si on n'est pas de ce monde. On est dans ce monde, il faut bien qu'on y vive. Vassilissa, tu penses quoi, toi, de tout ça?
Là, c'est vrai que c'est très... Enfin, je me dis que toute cette théorie, souvent, on l'a souvent entendu. Mais après, mettre en pratique, c'est difficile. Quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites.
C'est difficile. Je crois pas que ce soit vraiment difficile. Si tu as une conscience de ce que c'est que le pardon, si tu as une conscience de l'importance de l'obéissance et ne pas tergiverser avec ça, un enfant doit apprendre à obéir. C'est primordial pour sa santé psychologique et spirituelle. Un enfant qui fait n'importe quoi, il ne pourra pas se redresser. C'est pas possible. Et c'est pas de l'autoritarisme, mais c'est apprendre l'obéissance. Pourquoi c'est si important dans la vie spirituelle, l'obéissance? Nous sommes des enfants aussi dans la vie spirituelle. Et on obéit à notre père spirituel. Et d'ailleurs, les enfants, plus tôt ils ont un père spirituel, mieux c'est. Parce que du coup, ils prennent leur élan différemment. Mais il faut quand même qu'ils aient l'exemple. Les parents, ils obéissent, et les enfants obéissent. Et on peut pas faire autrement. Il y a par exemple des petites choses, des petits détails comme ça qui ont l'air de rien. Je vois par exemple à l'Ermitage, quand les gens viennent le dimanche, après il y a le pain béni et on embrasse la croix, et j'ai dit à Père Jean l'autre jour, s'il te plaît, pour les tout-petits, ne leur permets pas de se servir, mais donne-leur. Il faut apprendre aux enfants tout-petits à ne pas prendre, mais à recevoir. C'est rien. Mais dans toutes les familles de France et de Navarre, on prend l'apéritif, paf, plaf, 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 t'as toutes les petites pains qui arrivent, et au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien. C'est pas grave qu'il n'y ait plus rien. Mais ce qui est grave, c'est qu'eux n'ont rien compris et n'ont rien appris. On ne prend pas, on reçoit. Mais c'est une règle spirituelle. Mais si on l'acquiert dès l'enfance, ben c'est en nous pour plus tard. Par contre, si dès l'enfance, on acquiert des choses de travers, c'est plus difficile de les remettre droit. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais surtout dans l'Église, quand même. On doit être là pour leur montrer. Ne pas prendre, mais recevoir. Je sais pas, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui... une grande différence dans cette phrase-là. Qui est-ce qui a des enfants ici? Oui, alors? Oui.
C'est en plus c'est lié lorsqu'elle se sent le pas bien, elle se sent pas bien, elle veut faire quelque chose contre mes parents là, et c'est de prendre par elle-même, de voilà, justement de crier, de demander, enfin crier quelque chose, revendiquer.
Oui.
Ça c'est.
Mais ça c'est là, je veux dire c'est là qu'on se rend compte, et alors. Ne vous offusquez pas de ce que je vais dire, mais vous y réfléchirez plus tard. C'est là qu'on se rend compte du péché qui est là dès qu'on arrive sur cette terre. Vous avez des enfants, vous leur faites ça par exemple, pour regarder... Ah, touche pas, hein ! Pardon ? Un autre va dire, qu'est-ce que tu regardes ? Pour le même geste, hein ? Et bien là, on se dit, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a quelque chose d'agressif, il y a quelque chose... Mais tous les enfants vont essayer de transgresser. Voilà. Transgresser, désobéir. Ça ne vous rappelle rien ? C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Si on sait ça au départ, si on sait... La seule chose de bien que Napoléon ait faite, c'est de dire que l'éducation se faisait au berceau. Il a raison. Mais bien sûr qu'on ne va pas avoir une exigence sur un enfant d'un mois qu'on va avoir sur un enfant de 10 ans. Mais on peut parler à un enfant d'un mois aussi. Il y a quelque chose qui se passe. Et au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il commence à acquérir une autonomie, poser les limites et l'obéissance. Alors, on a un tas d'enfants qui vont faire des caprices. Tu veux pas me donner ça ? Alors, je hurle dans un magasin ou je hurle dans la maison. Alors après, ben ça, c'est chacun qui va utiliser son inspiration, son intuition. Notre grande fille, Moniale, devant l'Éternel, quand elle a eu 2 ans un jour, elle a fait ce qu'on appelle le spasme du sanglot. C'est-à-dire, comme l'enfant sait très très bien y faire avec sa mère, il s'arrête de respirer. Alors là, la mère, hop, tiens, prends. Loupé. Sauf si on a une espèce de 6e ou 7e sens, qu'on prend la petite, qu'on la met dans sa chambre et qu'on ferme et qu'on dit, tu me diras quand ça ira mieux. Ah, ça respire, ça va, c'est bon. Et c'est fini. Plus jamais le spasme du sanglot. Il faut faire attention, les enfants sont très intelligents. Et certains encore plus que d'autres. Donc plus ils sont intelligents, et plus il faut que vous le soyez aussi. Et un conseil pour les mamans, ne dites jamais, mes enfants, c'est tout pour moi. C'est Dieu qui est tout. Les enfants y passent. On a un grand travail à faire et après, l'arrivedere. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Et souvent, quand les mamans disent ça, c'est que en fait, elles ont tellement investi l'enfant qu'il y a plus de place pour autre chose. Mais il n'y a plus de place pour l'enfant lui-même qui étouffe. Donc il faut vraiment... il faut aimer, mais il faut aimer vraiment gratuitement. Vraiment gratuitement.
Cette chose empêche aussi dans le processus de l'éducation, quand l'enfant est tout pour la mère ou disons pour le père, n'importe quoi. Il est tout, il est vraiment... Et donc, le parent, donc... On ne peut pas dire traite comme un objet, mais on dit que... Non, je veux dire qu'on fait, donc... je ne sais pas comment expliquer, mais...
Il y a une idolâtrie quand même.
Oui, quelque idolâtrie. Oui. Et donc, attention à chaque petit détail du... Et donc, ainsi, donc, il y a cette personne... il a presque pas d'espace intime. Oui. Disons, même quand il a 2 ou 3 ans, quand il fait quelque chose, peut-être, ou 10 ans, peut-être,
oui.
La mère ne voit pas, ou ne
oui.
connaît pas. Ou, et ça, c'est un peu. Donc,
non.
Et c'est... puis, tout d'un coup, la personne qui part, donc, et elle reste sans cette attention, et parfois, ça, c'est horrible. Parce que moi, j'ai quelques amis qui, malheureusement, ont vécu une telle expérience.
Oui.
Et d'autre part, le parent, il reste là. Mais il est où? Il est où ce trésor? Il est parti où?
Oui, oui.
Ah, donc ça provoque une douleur pour les deux.
Pour les deux, d'où l'importance de... Bah, c'est quand même notre but commun, c'est quand même d'aller vers Dieu de plus en plus et de plus en plus près. Et donc, en fait, notre... Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, que votre trésor soit en Dieu d'abord. Et par ce trésor de Dieu, on essaye de faire au mieux pour ces enfants qui passent. Et peut-être que plus tard, ces enfants qui sont devenus des adultes vont devenir vos amis, pas vos copains, jamais, jamais. Mais vos amis, c'est-à-dire que devenus adultes même, peut-être parents aussi, il y a une telle connivence d'esprit qu'on se comprend, on s'aime et on devient des amis. Mais ce n'est pas évident pour tous les enfants et pour tous les parents. Et même sur une fratrie, ce ne sera peut-être pas pour tous pareil. On ne sait pas comment les enfants grandissent. Vous savez bien que chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent et on n'a pas la même relation avec chacun de nos enfants. Ça, c'est pas vrai. On les aime tous, mais on n'a pas la même relation avec chacun de nos enfants. Il y a celui qui vous ressemble et du côté des défauts et ça vous renvoie un peu à vous-même. L'autre qui vous ressemble du côté des qualités et ça va tout seul. Tout est très très différent. On n'a pas la même relation avec nos enfants, surtout quand ils grandissent. Mais on les aime tous. Ça, c'est autre chose. Et par rapport, je reviens là-dessus, à cet enfant qui veut et qui commence à faire ses caprices, qui veut affirmer. Alors, on vous dit, la psychologie moderne, c'est normal, laissez-le. Et elle veut s'affirmer. OK, pas de problème. Mais elle va sans doute s'affirmer encore comme ça longtemps. Ce qui est très important, c'est de ne pas flatter l'ego. Par exemple... on voit un enfant qui dit sa prière, hein, un enfant qui dit son Notre Père par cœur et très bien. Alors on fait une vidéo, on la poste sur Facebook et on lui montre t'as vu. Ça c'est vraiment objectiver l'enfant et ne pas le prendre comme une personne. Ça, il a droit à une vie intime, privée et de prière qui ne regarde personne. Et si par exemple vous voyez votre enfant à 2 ans qui va voir le prêtre, et puis j'ai déjà vu ça, moi, un enfant qui va voir le prêtre et puis qui lui fait ça parce qu'il veut l'étole sur la tête. Il voit bien que tout le monde a l'étole sur la tête, donc lui aussi il veut. On a envie de sourire, mais il faut se retenir de ne pas le faire devant l'enfant parce que pour lui c'est très important ce qu'il est en train de faire. Alors soit il peut être vexé si on sourit, soit il va... T'as vu? Je suis intéressant. C'est horrible. c'est déjà, on a déjà ce péché en nous dès qu'on arrive, donc il faut faire attention de ne pas renforcer encore cette propension qu'on a tous hein, à avoir un ego comme ça. Ça, c'est vraiment la responsabilité des parents de ne pas dire toutes les 5 minutes « Oh, tu es belle, oh, tu es belle, oh, vraiment, tu es belle. Grâce à Dieu, tu es belle. » C'est déjà, ça remet déjà les choses. Grâce à Dieu, tu es intelligent. C'est bien, tu as des très bonnes notes, c'est bien. Rends grâce à Dieu. C'est pas parce que tu es extraordinaire. Rends grâce à Dieu. Si on ramène tout sur Dieu, on a un peu moins de chances de se tromper. Parce que sinon, on va le ramener sur nous. Il est intelligent comme moi, c'est normal. Hein? Et puis, elle est belle comme moi, c'est normal. Non, et vous savez, c'est très vite, vite. Hein. Tout ça, c'est, on tombe dedans tous. Donc, on doit être vigilant. En fait, c'est un travail spirituel de tous les instants d'élever un enfant. Alors, vous allez dire en partant d'ici, bon, je veux pas d'enfant, c'est trop compliqué. Hein. Non, non, non. Non, non, il faut avoir des enfants. C'est l'avenir de l'Église. C'est l'avenir du monde. C'est l'avenir du monde d'avoir des enfants. Mais il faut prendre ce rôle-là vraiment très au sérieux. Très au sérieux. C'est une aventure extraordinaire. En Dieu. Vraiment en Dieu. Et vous verrez que, et peut-être plus pour la maman, que quand l'enfant est baptisé, généralement quand on est dans l'Église, on fait baptiser son enfant bébé, hein, eh bien, on a ce sentiment que, ça y est, il est vraiment né. Il y avait quelque chose qui manquait. Et quand il sort du bain, du baptême, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et là aussi, il y a, dans notre sainte tradition de l'Église, cette place de côté pour les parents pendant le baptême, qui n'est pas évidente à vivre pour tout le monde, mais ça met vraiment l'accent sur le fait que cet enfant, il est à Dieu, il est un membre à part entière de l'Église et que spirituellement, son parrain et sa marraine en sont responsables. Bien sûr, les parents aussi. Mais au baptême, on voit bien qu'il appartient à l'Église plus qu'aux parents. C'est-à-dire qu'il appartient à Dieu. Et ça, ce n'est pas pour rien, pédagogiquement, que ça se passe comme ça au moment du baptême. Tout est fait pour essayer de nous faire acquérir un petit peu de conscience et un petit peu d'humilité. Ce qui est quand même aussi extrêmement important pour élever des enfants. Des questions ? Oui, vas-y.
Si on dit que les parents ne doivent pas considérer leurs enfants comme leur propriété.
Oui.
Mais nous, on reste toujours des enfants pour nos parents.
Ah.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand nous, on est grandi,
oui,
et nos parents nous considèrent comme...
Alors, c'est une excellente question parce que je dois dire que je suis confrontée à ce genre de problème... Je ne dis pas tous les jours, mais presque, avec des gens qui me demandent, et encore juste là avant de venir par SMS, elle doit avoir 45 ans, hein, cette grande enfant, hein, et qui n'en peut plus de sa mère qui ding, 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 fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais, et là, aujourd'hui, elle m'écrivait pour dire pourquoi ? Parce qu'il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, quand elle m'a exposé le problème, je lui ai dit, mais. Quand est-ce que vous allez dire stop à votre mère? C'est pas ne pas l'aimer, c'est remettre les choses à leur place. Parce que même devant Dieu, on a besoin, on doit être dans la vérité. Et si une maman est abusive, parce que c'est être abusif que de vouloir posséder sa grande fille de 25 ans, il faut savoir lui dire non. Jamais avec colère, parce que c'est un péché. On risque de blesser, mais bien sûr que vous allez blesser une mère qui veut posséder son bébé au sein jusqu'à 30 ans. Vous allez forcément la blesser en lui disant stop. Mais comment faire autrement? Mais j'ai remarqué une chose quand même. c'est que quand on a le courage, parce que souvent on n'a pas le courage de dire stop, donc on a sa responsabilité. Quand on a ce courage, pour tous les gens abusifs, ça peut être un mari abusif, ça peut être un père abusif, une mère abusive, un enfant abusif, hein. Un enfant de 25 ans qui est à la maison, qui pique tout dans le frigidaire, qui embête les copains, tout ça. Oh là là, tu te rends compte ce qu'il me fait, mon fils, hein. Et tu fais quoi, toi? Oh ben oui, mais bon, ok, c'est bon. Allez, continue. Et le jour où la personne prend conscience et qu'elle dit « ça suffit », l'autre, il s'améliore. Il attendait que ça. En fait, on est complice. On cautionne ce genre d'attitude qui est négative pour tout le monde. Donc il faut avoir le courage de dire « maintenant, ça suffit ». Bien sûr, je comprends très bien cette question-là. Et quand tu auras un petit, tu sauras comment on fait.
Moi, je le sens surtout parce que je suis la petite dernière. Et je sens vraiment cette tension au niveau de famille.
Voilà. Oui, mais ce n'est pas une raison parce qu'on est la petite dernière qu'on doit être comme ça. Non, je pense que chacun a le droit d'être considéré comme une personne à part entière. C'est ça qui est important. On n'appartient pas à quelqu'un. On est à Dieu, ça c'est sûr qu'on est à Dieu. Mais Dieu nous laisse une telle liberté et il nous fait une telle confiance. C'est fou, quoi. Donc il faut avoir quelquefois, oui, ça nous demande du courage de dire non, ça c'est pas possible. Et quelquefois ça crée aussi une rupture, bon, mais c'est passager. C'est passager et quelquefois ça permet une prise de conscience d'avoir ce recul. Faut être courageux. On peut dire les choses avec amour et surtout prier pour que Dieu pense le cœur et que ça se passe. C'est important de prier pour les gens quand on a à leur dire des choses comme ça.